Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'offensive mondiale du coronavirus n'a pas épargné le Maghreb et le Moyen-Orient. La plupart des pays ont fermé leurs écoles ces derniers jours. Ceux dont le tourisme est une ressource principale, sinon essentielle, sont dans la crainte d'une récession économique spectaculaire. Sur le plan sanitaire, la situation est dramatique en Iran, tandis que les mesures coercitives sont particulièrement fortes en Israël. Notre revue de presse sera donc centrée sur cette crise pandémique avec Alexandre Bouchanti au Caire pour le monde arabe, Michel Paul à Jérusalem pour Israël et exceptionnellement Siavosh Ghazi à Téhéran pour le monde perse. En seconde partie d'émission, nous vous proposons la rediffusion d'un entretien avec la sociologue des médias Asna Hussein, qui a fondé un site spécialisé dans la déconstruction de l'argumentaire propagandiste djihadiste, car la crise sanitaire mondiale n'empêche pas les autres domaines de la vie de suivre leur cours. Nous lisons donc la presse régionale avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Avec Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et Siavosh Ghazi à Téhéran. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Le coronavirus ou Covid-19 frappe donc la région. Nous allons essayer de décliner trois axes de conséquences et l'on commence logiquement avec la situation sanitaire. Siavosh Ghazi, quelle est la situation générale en Iran relatée par vos journaux?
Les Iraniens ont commencé hier, donc vendredi, les congés du Nouvel An. Jeudi était également journée fériée et donc pas de journaux. En revanche, les quotidiens de mercredi ont insisté sur l'année noire qui s'achève avec le coronavirus en Iran et dans le monde, et qui avait commencé en Iran avec des inondations sans précédent en mars dernier. Ils ont aussi rappelé les difficultés avec les sanctions américaines durant toute l'année, l'assassinat du général Qassem Soleimani, le chef des forces extérieures des gardiens de la révolution, qui a été assassiné par les Américains, la réplique de l'Iran qui a frappé une base américaine en Irak, ce qui a failli provoquer une guerre entre les deux pays, l'accident de l'avion ukrainien abattu par erreur par un missile iranien au-dessus de Téhéran, ou encore les émeutes de novembre après la hausse surprise de l'essence. Sur le plan de la santé, les journaux, mais aussi la télévision d'État, ont largement salué la mobilisation et le travail du personnel médical. C'est également le cas dans les médias sociaux, avec des vidéos faisant l'éloge des infirmières et des médecins. Certains journaux n'ont pas hésité à comparer la mobilisation du corps médical avec la mobilisation des volontaires durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Mais dans le même temps, certains journaux ont mis en cause les chiffres officiels des personnes contaminées et des morts en affirmant qu'ils étaient en fait bien supérieurs.
Alexandre, le coronavirus fait évidemment la une de la presse arabe.
Oui, il faut rappeler que le monde arabe a franchi, selon la presse, les 2000 cas avérés et se rapproche aussi de la cinquantaine de morts le vendredi matin. Alors la région la plus touchée est celle du Golfe, qui dépasse largement le millier de cas. Alors pour de nombreux éditorialistes, c'est simple, c'est l'Iran la cause. La région arabe la moins touchée est l'Afrique de l'Est. Le Soudan, la Somalie et Djibouti n'enregistrent que 4 cas. L'Égypte, qui est le poids lourd démographique du monde arabe avec 100 millions d'habitants, a dépassé les 250 cas. Mais selon les journaux, c'est au Maghreb que les mesures les plus drastiques ont été prises. Confinement au Maroc, sauf pour les banques, les magasins alimentaires, les pharmacies et les cliniques, ainsi que les télécoms. Les autres travailleurs doivent obtenir un document de leur hiérarchie certifiant que leur présence au travail est indispensable. En Arabie, on ne confine pas, mais on gèle les moyens de transport public, des avions aux taxis. Dans plusieurs autres pays, on se contente de déconseiller aux gens de sortir sans raison importante. Contrairement à l'Europe, les denrées alimentaires n'ont été que rarement prises d'assaut et les masques sont disponibles dans la plupart des pharmacies. Plusieurs gouvernements veulent profiter du congé du vendredi pour désinfecter tous les lieux publics.
Coronavirus et santé, Michel Paul, la courbe exponentielle commence à prendre de l'ampleur en Israël.
Et Eric, il est difficile de trouver dans la presse et dans les médias en général en Israël un article qui ne soit pas lié d'une manière ou d'une autre au coronavirus. « Ne sortez pas de chez vous », titre un quotidien, « mouvement restreint », affiche un autre. Et le quotidien libéral Haaretz cite une responsable du ministère de la Santé qui proclame que la solution à la crise passe par un confinement complet et aussi par la cessation totale de la liberté individuelle. La solidarité sociale est à l'honneur, affirme pour sa part dans Israël Hayom le poète aveugle Erez Biton. C'est le tohu-bohu, fait remarquer un chroniqueur, qui reprend ainsi cette expression hébraïque que l'on retrouve dans les versets qui évoquent la création du monde. Une éditorialiste du quotidien Yediot Aharonot est persuadée de son côté que tout cela s'achèvera par une commission d'enquête sur l'impréparation des services de santé en Israël. Une idée reprise dans Haaretz, pour qui, après des années de négligence, ce système de santé se révèle être le maillon faible dans la crise du coronavirus. Tous les journaux, Eric, reviennent sur la technique désormais utilisée par Israël pour dépister les contacts qu'ont eu les porteurs du virus, la technologie déployée par le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, qui utilise la géolocalisation des téléphones portables. Ce qui inquiète les auteurs d'articles, ce n'est pas tant cette méthode, mais le fait qu'elle ait finalement été adoptée de nuit par le gouvernement, et cela sans l'aval du Parlement.
Alors, second axe de conséquence de cette crise sanitaire, évidemment, l'économie. Alexandre, le secteur touristique est en première ligne dans votre région, mais pas seulement.
Pas seulement. En fait, pour les pays arabes, la plus importante calamité qui est soulignée par tous les journaux du Golfe, c'est l'effondrement des cours du pétrole et du gaz. Alors, les Arabes, qui sont les plus grands exportateurs mondiaux, avec notamment l'Arabie Saoudite pour le pétrole et le Qatar pour le gaz, ont vu leurs revenus divisés par deux du fait de la baisse de la consommation mondiale et de la guerre des prix. L'autre secteur, c'est effectivement le tourisme qui s'est effondré. L'Égypte, championne arabe du tourisme culturel et balnéaire, a fermé ses aéroports, sauf pour les vols intérieurs. Le secteur est aussi ravagé au Maroc, en Tunisie, en Jordanie, mais aussi à Dubaï, dans les Émirats. Il ne faut pas non plus oublier l'Arabie Saoudite avec le tourisme religieux paralysé avec le gel du pèlerinage à la Mecque. Tous les gouvernements de l'océan Atlantique à l'océan Indien ont annoncé des plans pour soutenir l'économie par des baisses ou des suspensions de taxes ou de paiements. Le problème que soulignent beaucoup d'analystes, c'est que le monde arabe ne connaît pratiquement pas l'assurance chômage et qu'une bonne partie de l'économie est informelle.
Michel, de nombreux articles dans la presse israélienne évoquent les retombées de cette crise et analysent aussi les attitudes de la population.
L'apocalypse maintenant, c'est le titre d'un article publié dans Maariv. Son auteur, Shlomo Maoz, est un économiste de renom. Il estime que cette crise risque de bouleverser non seulement l'économie, mais le monde tel que nous le connaissons. Eric, ici comme ailleurs, les journaux papier et autres médias passent au télétravail. Ils recherchent bien sûr aussi des angles inédits. Par exemple, le supplément du week-end de Yediot Aharonot publie une interview avec un certain docteur Peter Hotez, un médecin et chercheur qui vit au Texas et qui prétend qu'il y a 2 ans déjà, il était sur le point de trouver un vaccin contre tous les types de coronavirus, mais qu'il a dû mettre un terme à ses travaux faute de budget. Et puis, dans les journaux, on parle beaucoup de l'attitude des ultra-orthodoxes qui, pour certains, continuent leurs activités comme si de rien n'était. Le gouvernement a dû interdire l'étude de la Torah dans un grand institut rabbinique dont le rabbin affirmait « Corona connaît pas ». Des mariages aussi qui ont réuni des centaines de gens et, incroyable mais vrai, un mariage dans un cimetière de Bnei Brak, une ville ultra-orthodoxe, une coutume qui, selon la Kabbale, permettrait d'endiguer les épidémies.
Siavosh, sur le plan économique, quels sont les effets en Iran ?
Les journaux iraniens affirment que la pandémie pouvait affecter directement 12 millions d'emplois dans le pays. Certains journaux ont rappelé que les commerçants étaient directement touchés à cause de la période de Nowruz ou le Nouvel An iranien. C'est une période où les gens achètent beaucoup de choses, notamment des vêtements neufs, et consomment énormément, ce qui représente une perte immense pour tous ces commerçants. Cela affecte également le tourisme, puisque chaque année, des dizaines de millions de personnes se déplacent dans le pays, donc puisqu'il y a des restrictions très importantes. Cela affecte également le tourisme religieux, puisque chaque année, 2 millions d'Irakiens se rendaient en Iran pour aller sur les lieux saints de Qom et de Mashhad. D'autres musulmans chiites des autres pays de la région, notamment du Golfe Persique, mais aussi d'Azerbaïdjan ou du Pakistan, se rendent également en Iran. Mais les journaux rappellent aussi que les mesures décidées par le gouvernement, notamment un délai de 3 mois pour le paiement des impôts, des factures de gaz, d'électricité et de l'eau, ou encore des aides directes aux plus démunis parmi la population, mais l'économie iranienne, qui était déjà durement touchée par les sanctions américaines, sera, selon les experts cités par les journaux, encore plus affaiblie à les conséquences de l'épidémie.
Alors, troisième axe que nous évoquons ce samedi, les conséquences sur le plan politique et social. Alors, Michel, il ne faut pas l'oublier, Israël n'a toujours pas de gouvernement après les élections du 2 mars.
Oui, un éditorialiste a trouvé un nouveau terme pour qualifier la situation, la coronocratie. Pour beaucoup de commentateurs, la démocratie israélienne a pris un sacré coup. On parle du jeu du virus. L'ancien premier ministre Ehud Olmert estime que politiquement, la situation est devenue un one-man show dont le protagoniste est Benjamin Netanyahou. La presse, elle, fait remarquer qu'à ce stade, son rival Benny Gantz est prêt à un gouvernement d'union nationale qui serait dirigé par Netanyahou avant une rotation du pouvoir. Mais au sein de son parti bleu-blanc, il existe une forte opposition à cette option. Dans les journaux aussi, beaucoup d'articles sur la marginalisation de la Knesset. Le Parlement israélien qui a été paralysé depuis le début de la crise. Pour Haaretz, l'Union nationale sous la direction de Netanyahou, ce n'est ni plus ni moins qu'une capitulation. Dans Yediot Aharonot, un écrivain de gauche, Meir Shalev, signe une chronique sous le titre « On recherche un leader ». Et pour terminer sur une note plus optimiste, dans Israël Hayom, le leader du parti travailliste Amir Peretz conclut « C'est l'occasion de créer une société plus juste ».
Siavosh, est-ce que sur le plan politique, la pandémie a eu des effets en Iran ?
Oui, bien sûr, notamment sur le plan international. Les journaux ont repris toute la semaine les déclarations des responsables iraniens qui ont dénoncé encore une fois les sanctions économiques américaines qui empêchent de fait l'Iran d'importer des médicaments ou encore des équipements médicaux. Le chef de la diplomatie a écrit par exemple au secrétaire général des Nations Unies pour demander la levée immédiate des sanctions américaines. Mohammad Javad Zarif a en effet affirmé que les sanctions américaines affectaient les moyens de l'Iran pour lutter contre le coronavirus. Mais aussi sur le plan intérieur, il y a des conséquences puisque certains journaux ont critiqué le peu d'engagement ou encore le peu de présence du président Rouhani dans les médias, notamment à la télévision d'État, pour calmer donc l'esprit de la population depuis le début de l'épidémie.
Alexandre, plus que politique, vos journaux se font l'écho de polémiques socio-religieuses.
Oui, et la principale polémique concerne la grande prière du vendredi. Les fidèles doivent-ils se rendre à la mosquée pour Salat et Gamara, la prière en groupe, ou prier chez eux en suivant la cérémonie à la radio ou à la télé? Pour les salafistes du Maroc à l'Égypte, il faut absolument prier à la mosquée. Aucun danger d'infection au coronavirus car Allah y pourvoira. Totalement irresponsable pour les musulmans modérés qui appellent dans des éditoriaux les autorités à interdire la grande prière du vendredi et tous les rassemblements, y compris religieux. Même polémique pour la messe et la communion chez les coptes orthodoxes. L'autre question que se posent de nombreux journalistes est de savoir si le confinement pourra être imposé à une population dont les us et coutumes sont basés sur la promiscuité sociale.
Merci à tous les trois, Michel Paul à Jérusalem, Alexandre Bouchanti au Caire et Siavosh Ghazi à Téhéran. Soyez prudents et portez-vous bien.
Happy New Year to ya. First for the honeyway ya. Rusini yukuai. Stas the Nova Rock. Got new to.
Nous accueillons maintenant Asna Hussein, sociologue des médias et du genre, directrice de l'association de prévention de l'extrémisme violent, Preva.net. Elle a créé un carnet de recherche sur Internet, contre-discours radical, dont l'adresse est cdradical.hypothèse.org. Dans un entretien que nous avons diffusé en octobre dernier, elle nous explique de quoi il s'agit.
C'est un carnet de recherche que j'ai créé en février 2016, après plusieurs années de recherche sur la question des réseaux sociaux, de la réception et des médias. L'idée, c'est de contribuer à la vulgarisation de la connaissance et du savoir autour de cette thématique qui est malheureusement une thématique d'actualité. Donc, mon objectif, c'est aussi de créer un réseau entre chercheurs, praticiens, mais aussi décideurs politiques qui travaillent ou qui s'intéressent à cette thématique-là. C'est pour cela que le carnet cible aussi des recherches pluridisciplinaires et sous un format court, accessible à toutes sortes de publics, puisque aujourd'hui, après plusieurs années, je sais qu'il y a beaucoup des professionnels en charge de la jeunesse qui consultent assez régulièrement ce carnet de recherche pour pouvoir améliorer, si j'ose dire, leur niveau de connaissance sur ces thématiques-là.
Contre-discours radical, ça veut dire que vous êtes sur un mode offensif, voire guerrier ?
Peut-être même provocateur, si j'ose dire, sachant que ce n'était pas une décision facile au début de se positionner, surtout, et même si je suis sociologue des médias et du genre, surtout quand on est femme, sur ces thématiques-là. En France, il y a eu plusieurs cas, des journalistes, des politiques qui ont été menacés. Ben, je dis, je n'ai pas été menacée, même si j'ose les contredire par la raison critique, par le biais des approches scientifiques. C'est ça ma méthode. Mais je dis que cette idéologie et ces armes numériques sont tellement puissants que aujourd'hui, malheureusement, je peux vous dire qu'ils ont réussi à pirater le site web de l'association que j'ai créée. Donc, ce qui prouve aussi que le combat, ce qu'on appelle le cyber-djihad, est aussi puissant et peut aussi s'attaquer à de la recherche scientifique qui va dans un sens contre cette idéologie-là.
Cela montre aussi que votre site dérange, et notamment des gens qui n'aimeraient pas être dérangés, bien entendu. Quelques arguments que vous utilisez sur votre site pour faire de la contre-propagande ?
J'ai travaillé, entre autres, sur l'image du prophète dans la propagande de Daesh. Et j'ai publié par la suite un article que j'ai intitulé « Daesh, de quel prophète parle-t-on ?» Et j'ai montré dans cet article-là, en se basant vraiment que sur des approches critiques scientifiques, comme par exemple l'analyse de discours ou l'analyse de contenu qui sont couramment utilisées en sociologie des médias, que cette propagande-là véhicule une image complètement contradictoire autour du prophète. D'une part, elle le montre comme étant quelqu'un de très très tolérant. De l'autre part, on le montre comme étant un monstre qui ordonne l'exécution, la crucification, etc., etc.
Et concernant les jeunes femmes qui sont allées combattre au sein de Daesh en Syrie, en Irak, et qui reviennent, est-ce que vous avez un discours précisément par rapport à ces jeunes femmes qui vont revenir et dont on pourrait avoir des informations, par exemple ?
Moi, je suis pour le rapatriement des femmes et de leurs enfants, parce que surtout pour les enfants, c'est un cas qui est très, très particulier. Ça relève, j'ai même travaillé sur l'image des enfants et des enfants soldats dans la propagande de Daesh. Je dis, ça relève à 100% du lavage de cerveau. En 2016, j'ai publié un article pour alerter que j'ai intitulé de la nécessité de prendre en toute urgence une population en danger. Aujourd'hui, ça fait partie de mon combat. Et je dis, si on veut rapatrier les enfants, il faut absolument rapatrier leur maman aussi. Quel que soit le cas, il y a toujours un moyen, à travers le dialogue, je dis, et l'échange, on peut faire quelque chose. Et on peut désengager, pour ne pas dire déradicaliser, on peut désengager, on peut aider ces femmes-là à retrouver notre chemin, qui est le chemin du djihadisme. Donc, mais tout ça passe par le dialogue, par l'écoute, par l'échange. Et je pense qu'en France, on a tout à fait les compétences nécessaires pour faire ce travail-là.
Je rappelle l'adresse du blog d'Asna Hussein, cdradical.hypothèse au pluriel .org. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Gulchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. À demain.